Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 19, verset 7 ou 8, jusqu'à le verset 15. C'est ça le passage qu'on va continuer d'étudier. Comme vous le savez, celle-ci est déjà notre troisième étude sur la suffisance de la parole de Dieu pour l'homme, tirée du psaume 19. Il y a deux grands et excellents livres que le seul et unique vrai Dieu a publié pour l'instruction et l'édification des hommes. Et de ces deux livres, ce que ces précieux psaumes parlent et nous recommandent l'étude diligente des deux. Premièrement, il y a le livre de la création, ou ce qui est connu en théologie comme la révélation générale. Et dans ce livre, nous pouvons facilement lire la puissance et la divinité du Créateur. Le deuxième livre, dans les versets 7 jusqu'à 7 ou 8, ça dépend de chaque Bible, jusqu'à les versets 11. Et le livre des Écritures, ou ce que nous appelons également la révélation spéciale. Et ici, Dieu nous fait connaître ce que nous ne parvenons pas à comprendre à travers sa révélation générale. Qui est Dieu, son être, ses attributs, ses œuvres parfaites, son salut en Christ et son plan complet et parfait jusqu'à la fin du monde. Il nous apprend à en profiter dans les versets 12-14 aussi. Comme je vous l'ai dit il y a quelques dimanches, nous voyons des choses très tristes dans quelques églises aujourd'hui. De nombreux évangéliques méprisent et abandonnent la parole de Dieu, tout en affirmant qu'elle est inspirée et vraie. Aujourd'hui, beaucoup parlent de l'inspiration des Écritures, de l'inerrance des Écritures, de l'infaillibilité des Écritures, mais en fait, ce terme ne signifie pas grand-chose si nous ne parlons pas de la suffisance des Écritures. Ainsi, bien que de nombreux évangéliques affirment aujourd'hui croire en l'inspiration, l'inerrance et l'infaillibilité de la parole de Dieu, la vérité est qu'ils ne croient pas en sa suffisance. D'autres choses prennent la place de la Bible parce que plusieurs, même au sein des églises évangéliques, pensent qu'il ne suffit pas de répondre à tous les besoins de l'âme humaine. Pour beaucoup de gens, la psychologie est la réponse et la solution à leurs problèmes émotionnels et spirituels. Et ils pensent même que ce serait une catastrophe de vivre sans psychologie. Car elle est devenue une partie indispensable de la vie de l'homme moderne. Mais nous demandons, la psychologie est-elle et donne-t-elle des solutions aux problèmes spirituels de l'homme? Bien sûr que non. Nous affirmons avec nos ancêtres que tous les conseils de Dieu concernant tout ce qui est nécessaire pour sa propre gloire, le salut de l'homme, de la piété de la vie sont expressément énoncés ou nécessairement contenus dans les Saintes Écritures. Ce qui est suffisant à tout moment. Par exemple, Dieu, par sa parole et son Saint-Esprit, nous convertit. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 3:15, Paul dit, « Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. » Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. De plus, Dieu, par sa parole, nous sanctifie. C'est le Seigneur Jésus qui a dit, « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est ainsi que nous pouvons affronter et résoudre toutes sortes de problèmes de la vie et de l'être humain. Le Saint-Esprit, par sa parole, produit en nous la conversion, la maturité, nous fortifie, nous édifie, nous sanctifie et nous transforme à l'image du Christ. La parole de Dieu suffit à changer de vie, à nous amener à la perfection en Christ, afin que nous puissions continuer à faire tout ce qui plaît à Dieu. Et c'est ce que le psaume 19 nous parle. En parlant dans ce psaume de la parole de Dieu, David utilise six expressions différentes pour la décrire, et à chacune, il fait un compliment spécial afin de nous la recommander. En général, l'incrédule ne connaît la Bible que par un nom ou peut-être deux. Ils appellent cela la Bible ou les écrits sacrés, et c'est tout ce qu'ils en savent. Mais pour les croyants, qui la connaissent très bien avec son contenu, ils connaissent tous les noms pour lesquels elle est reconnue. L'exemple le plus notable de ceci est le psaume 119, qui contient 176 versets dont chacun fait mention de la parole du Seigneur de différentes manières. Je pense que qu'il serait très utile pour nous de lire ces grands psaumes du début à la fin attentivement et de noter les variations que les psalmistes utilisent par rapport aux Écritures et combien ils les connaissaient et les appréciaient aussi. Mais pour notre but actuel, il nous suffira de limiter nos pensées aux six descriptions et louanges que nous trouvons dans le psaume 19. Tout d'abord, David dit dans le verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Ce point, nous l'avons vu déjà quelques dimanches avant, mais je vais mentionner quelque chose avant de continuer. David appelle la parole de Dieu la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel est parfaite et cela s'applique à toutes les Écritures, à l'Ancien et au Nouveau Testament. La parole de Dieu est parfaite et elle a pour effet de convertir, de restaurer, de convertir l'âme à Dieu. Soit en nous appelant au salut, soit en nous faisant revenir à la communion avec Dieu, lorsque nous sommes comme ses enfants, avons péché contre lui. Par exemple, par rapport au salut, comme Jacques 1:18 nous le dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Quand nous venons à Christ, par la foi, en premier lieu, nous venons par la parole de Dieu, parce que la foi vient par écouter la parole du Seigneur, et croyons la parole de Dieu et répondons à ses instructions, et en venant à Dieu dans la repentance et la foi, et en ayant confiance que Dieu a fourni un chemin vers le salut, qu'il a fait en Christ Jésus. Et aussi restaurer l'âme si nous sommes croyants et que nous nous sommes refroidis ou si nous nous sommes éloignés du chemin du Seigneur et nous avons péché contre Dieu, alors par l'obéissance à la parole de Dieu, la repentance et l'attachement à Dieu et lui faire confiance, alors l'âme est restaurée et tournée une fois de plus vers le Seigneur. Donc, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Partie B, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Nous avons déjà vu ce point aussi. La parole de Dieu est le témoignage de Dieu, de ce qu'il est, de son plan de rédemption par la grâce en Christ, son Fils, pour tous ceux qui croient. Les témoignages du Seigneur dans sa parole sont fidèles et vrais. Il n'y a aucun mensonge en eux. Et ils ont pour effet de rendre les simples, les ignorants sages. C'est ainsi que chacun de nous était avant de rencontrer le Seigneur, ignorant. Simple, ignorant du Seigneur et de son amour et de sa grâce. Mais le Seigneur a travaillé par son Saint-Esprit et sa parole et nous a donné la sagesse. Proverbe, le quatrième passage nous dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. » Cela nous rappelle, mes frères, ce que nous avons reçu en Christ. On vous a donné un esprit qui comprend maintenant. Maintenant, vous ouvrez la parole de Dieu et vous lisez ces choses et vous les comprenez. Vous comprenez quel est le message derrière tous ces récits historiques et les expériences du peuple de Dieu. Et alors, vous êtes bénis. Vous êtes enrichis. Et on vous donne une compréhension de la nature humaine et des chemins de Dieu, quelque chose que vous n'avez jamais eu auparavant. Alors, peut-être que vous êtes allé à l'université et que vous êtes une personne très intelligente, vous avez peut-être beaucoup appris, vous avez peut-être un doctorat, je ne sais pas, mais vous ne saviez rien à ce sujet et vous ne compreniez pas la nature humaine et vous ne compreniez pas les voies de Dieu et vous n'aviez pas non plus compris l'avenir ni compris comment contrôler vos péchés. Et ce que cela signifie, c'est que par la parole de Dieu, vous avez été rendu sage. Imaginez ça. Avant, vous étiez naïf, ignorant, vous ne saviez pas ces choses. Cependant, maintenant, vous êtes plus profond. Maintenant, vous avez la compréhension et le discernement à travers la parole bénie de Dieu. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Et gloire à Dieu pour ça. Verset 9 ou 8, ça dépend de chaque Bible. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Et je veux que vous remarquiez le progrès. Celui qui s'est converti en vient alors à être sage, et maintenant il est heureux. La parole de Dieu rend le cœur droit et donne ensuite la joie au cœur. Les ordonnances, ceci un autre titre pour la parole du Seigneur, il se réfère aux ordonnances du décret du Seigneur, au mandat et édit du roi, à ses préceptes. Et David dit que les ordonnances de l'Éternel sont droites. Bien sûr qu'ils le sont, puisqu'ils viennent d'un Dieu juste. Elles sont droites, c'est-à-dire qu'ils indiquent le vrai et juste chemin, nous guident sur le bon chemin pour parvenir à des conclusions réalistes et vraies sur ce que la vie, ce que Dieu, ce que l'homme, etc. Je crois que nous pouvons tous nous souvenir comment dans le passé, mes frères, nous avons essayé de concevoir nos propres destinations, nous avions nos propres boussoles et cartes. Et nous avons traversé la vie avec un cours incertain. Proverbe 14, 12 nous rappelle la fin de ceux qui ne tiennent pas compte de Dieu. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. C'est la fin de tout plan de vie qui exclut Dieu. Si vous vous laissez guider par vos propres idées, par vos propres plans, vos projets ou ceux de ce monde déchu, sans prendre en compte les principes de la parole de Dieu, vous allez subir les conséquences de suivre un mauvais chemin. Et je parle aussi à nos enfants. Et même en tant que croyants, nous pouvons construire nos propres plans et subir les conséquences de ne pas obéir aux commandements ou préceptes de Dieu. Par conséquent, ceux d'entre nous qui connaissent le Seigneur et étudient sa parole ont pu apprécier l'héritage que nous avons, que nous y avons, qui nous marque le vrai chemin à suivre. Nous ne manquons plus de cartes ni de boussoles. Nous savons où nous allons quand nous trouvons la direction dans les manuels de vie et de piété qui est la parole de Dieu. Nous ne sommes plus perdus dans le brouillard des opinions humaines. Nous avons une vraie parole à suivre. Et le résultat de cela est que nous marchons sur un droit chemin qui réjouit le cœur. C'est son avantage. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Et que font-elles? Elles réjouissent le cœur. Et nous pouvons confirmer cette affirmation dans notre propre expérience. Où va un croyant pour trouver la joie? Où va un croyant pour trouver le soulagement, le bonheur, la libération de la tristesse, de l'anxiété et de la dépression? Au magasin? Non? En promenade au cinéma? Non à la parole de Dieu qui réjouit les cœurs. Comme il est doux, frère, de s'appuyer complètement sur les desseins éternels de Dieu en Christ Jésus. Savoir que notre élection et notre appel sont fermes. Sachant que pour ceux qui aiment Dieu, tout concourt au bien, c'est-à-dire à ceux qui sont appelés selon son dessein. Comme quelqu'un a dit, c'est certainement un mets délicieux. Pensez à ce qui nous dit le Seigneur ici. Ce n'est un secret pour personne que la vie est parfois difficile et parfois énigmatique. Parfois, nous sentons confus et nous ne savons pas ce qui se passe. Cependant, la parole de Dieu réjouit les cœurs. Lorsque nous suivons les principes de la parole de Dieu et les appliquons, nous trouvons de la joie en eux. Par exemple, le prophète Jérémie, quand il prophétisait à la nation hébraïque, vivant dans un contexte de grande dépression, d'hostilité, de rejet de son message, de rejet de sa personne, de désastre tombant sur toute sa nation, a donné un grand témoignage de la joie à venir à travers la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 15, verset 16, où nous dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Au milieu d'une situation extrêmement difficile, dit-il, c'est ta parole qui m'a donné la joie et le bonheur. Si ce n'est pas le cas, mes frères, cela signifie que vous êtes peut-être écartés des principes de la parole de Dieu et que vous recherchez peut-être la joie ou la suffisance dans d'autres choses. L'invitation est donc amène ta vie à la parole de Dieu et trouve en elle ta joie et ton bonheur. Les gens qui fuient la parole de Dieu vers les psychiatres du monde et vers les sources que le monde offre et vers toutes les choses matérielles du monde, ils fuient la joie. Ils cherchent la joie, mais ils fuient la joie. Ils ne s'approchent pas de la joie. Ils trouvent moins que ce qu'ils pensaient trouver, ils sont plus éloignés de la source qu'ils n'étaient avant de s'éloigner. Les témoignages des Écritures elles-mêmes, ce qui n'est pas une source, mais en fait la source de la joie du croyant. Verset 9, partie B. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Les Écritures sont les lois de Dieu. Elles sont son témoignage. Ce sont ses ordonnances, mais aussi ses commandements. Et ici, nous trouvons l'accent sur l'autorité, sur la nature non optionnelle de l'Écriture. La Bible n'est pas pleine de suggestions. Ce sont des commandements avec une autorité totale. C'est ce que Dieu demande. Et pour ceux qui répondent, il y a la bénédiction, et pour ceux qui ne répondent pas, il y a le jugement. C'est ça que nous dit le verset 12. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. La parole de Dieu nous vient comme un commandement de Dieu. Ici, on nous dit qu'ils sont purs. C'est clair, cela signifie lucide. Ce n'est pas mystique. Ce n'est pas confus. Oh oui, il y a des choses difficiles à comprendre que les ignorants et inconstants tournent vers leur propre désir pour leur propre destruction. Mais la parole de Dieu en général, telle qu'elle est lue avec un cœur humble, et dépendant de l'Esprit de Dieu, est claire, elle est facile à voir, elle donne une direction claire pour la vie. La parole de Dieu rend les choses claires, contrairement aux pensées troublantes et complexes des hommes qui sont eux-mêmes aveugles. Proverbes, chapitre 6, verset 23, dit que le commandement est une lampe et l'enseignement est lumière. Et donc, nous posons la question. La Bible est-elle aussi insuffisante que certains le prétendent, qu'elle ne peut pas nous montrer, donner des conseils et de la sagesse pour plaire au Seigneur et vivre dans son monde pour lui en toutes choses, et par conséquent, nous devons compter sur la sagesse humaine? Devons-nous aller voir les hommes incrédules et leur demander d'expliquer ce qui se passe dans la vie? Avons-nous besoin de plus de révélations? Avons-nous besoin de la psychanalyse pour des problèmes spirituels? Avons-nous besoin de sources qui ont longtemps rejeté les Écritures comme source de vérité? La Bible est-elle si incomplète que nous devons nous tourner vers la science pour expliquer les origines de la vie? La philosophie pour expliquer la vie et la sociologie pour expliquer les péchés? Non, les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Spurgeon a écrit « Que l'œil soit assombri » par l'affliction ou les péchés, l'Écriture est un oculiste habile qui rend l'œil clair et brillant. Et regardez à nouveau les progrès. Les convertis deviennent un disciple, puis une âme qui se réjouit, et maintenant vous avez un œil averti. Verset 10 ou 9, ça dépend. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. La crainte, c'est ainsi que la parole de Dieu s'appelle. Les Saintes Écritures expriment la crainte de la magnificence de Dieu pour produire une crainte révérentielle pour nous conduire à son adoration, mes frères. Si vous la lisez, si vous réfléchissez à la parole de Dieu, si vous lui obéissez, alors il vous est donné comme la crainte du Seigneur. La parole de Dieu, à travers le Saint-Esprit, opérant en nous, a la capacité de produire la crainte de Dieu, et la crainte du Seigneur est la vraie religion. En d'autres termes, comment puis-je respecter correctement le Seigneur? Comment puis-je avoir une attitude correcte, respectueuse et obéissante envers le Seigneur? Nos enfants aussi. Et la réponse vient ici du roi David. Utilisez la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel. Si vous lisez la parole de Dieu, si vous êtes saturé de la parole de Dieu, si vous aimez la parole de Dieu, alors vous avez la crainte de l'Éternel. Et ces écritures qui produisent en nous la crainte et l'adoration de Dieu, il dit qu'elle est pure. Cela signifie l'absence d'impurité, l'absence de saleté, l'absence de contamination, l'absence d'imperfection. Ceci, encore une fois, contrairement aux paroles trompeuses des hommes, la parole de Dieu est pure, il n'y a pas une tache de mal en elle. C'est absolument pur. Le témoignage de David dans le psaume 12, verset 6, est merveilleux. Il dit, « Les paroles du Seigneur, dit-il, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. La crainte de l'Éternel est pure. » Certains types de crainte dans le monde, dans la vie de l'homme, sont tout sauf propres. Comme l'a dit un ancien prédicateur, la crainte de l'homme a été un piège ignoble dans lequel beaucoup ont été capturés par le diable. Et Proverbe 29, 25 déclare, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte du Seigneur est pure. Maintenant, contrairement aux paroles des hommes auxquelles vous ne pouvez pas toujours faire confiance, vous pouvez toujours faire confiance à la parole du Seigneur. Et en conséquence, vous remarquerez qu'elle reste pour toujours. Cela signifie que vous pouvez toujours la suivre. Elle est fiable à tout moment. C'est la parole vivante, la parole éternelle, comme Pierre l'a dit dans 1 Pierre 1, 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Elle ne change jamais, elle n'est jamais modifiée, quelle que soit la génération dans laquelle elle est. Et quand les gens disent, eh bien, la Bible n'est pas assez sophistiquée pour notre société de haute technologie, ils ne comprennent pas. La Bible est absolument pure et elle ne comporte aucune erreur, elle n'a pas de péché, elle n'a pas de défaut, et par conséquent, elle n'a pas besoin d'être mise à jour, ni éditée, ni affinée, elle est parfaite. Mais la concession, mes frères, la concession est très populaire aujourd'hui et de nombreux prédicateurs cherchent à faire de mauvaises alliances avec ceux qui savent la parole de Dieu. Mais la Bible est un livre qui ne fait aucune concession. Et puis enfin, David dit dans les versets 10 ou 9, partie B, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Le mot jugement signifie le verdict. C'est correct? Le verdict divin du juge de toute la terre. De toute la terre. La Bible est la détermination judiciaire de la part de Dieu, le juge éternel, pour la vie de l'homme et la destinée éternelle. La parole de Dieu sont des jugements de Dieu. Elle prévient, écoutez, la parole de Dieu nous prévient qu'un jour, elle jugera le monde avec justice par Jésus-Christ. Et tous ceux qui ne l'ont pas connu par la foi, qui n'ont pas eu une vie d'obéissance, seront jugés et punis éternellement. Et ici, on nous dit qu'ils sont tous vrai tous juste. Il n'échoue pas. Il n'échoue pas et ils sont justes. Quand nous pensons au jugement du Seigneur, dans les temps anciens, rappelons-nous qu'ils ont été justes. Quand il a répandu la grêle et le feu sur Sodome et Gomorre, il était juste. Quand il a puni Pharaon et ses armées ont été vaincues à la mer Rouge, il était juste. Bien sûr, Dieu est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais le jour de sa sainte colère viendra, parce que ses jugements sont vrais et ils sont tous justes. Assurons-nous donc que nous sommes du côté du Seigneur, en mettant notre confiance dans le sang précieux de Jésus et en espérant en lui, plus que les sentinelles au matin. Et alors, quand il viendra, ce sera un jour de lumière et non d'obscurité pour vous, et les jours de votre affliction seront à jamais terminés. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes, sont tous justes. Il n'y a rien ici qui soit contraire au caractère saint de Dieu. Et si Satan murmure à vos oreilles et vient vous dire, alors Dieu vous a dit, faites comme le Seigneur Jésus quand il a été tenté par le diable, il est écrit. Ainsi, la parole de Dieu contient toute la vérité nécessaire à une vraie vie spirituelle et répond parfaitement à tous les besoins spirituels de quiconque la reçoit avec foi et dans un esprit obéissant. En bref, voyons la valeur de l'Écriture dans les versets 10 jusqu'à 13. Écoutez, David dit, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des royaumes. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonnez-moi ceux qui ignorent. La parole de Dieu, elle est la plus grande des possession, la plus grande possession. Avoir la parole de Dieu vaut plus que tous les métaux précieux, même l'or, frère. Je pense que c'est en pensée que nous devons méditer souvent. Premièrement, David dit que la parole de Dieu vaut plus que l'or. Toutes les richesses de ce monde ne peuvent être comparées à une compréhension de la parole de Dieu. Mais ça, c'est fou pour le monde, non? Ne la mettez pas de côté, mes frères. N'arrêtez pas de la lire. Ne la lisez pas seulement pendant quelques secondes. Juste pour dire que j'ai lu la parole du Seigneur. Plus nous grandissons dans la parole de Dieu, la comprenons, plus nous la désirons, plus nous la valorisons. Avoir la parole incomparable de Dieu est bien mieux que d'avoir la richesse matérielle. Les bénédictions matérielles sont sans valeur par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Mais nous ne comprenons pas comment certains qui se disent chrétiens, méprisent de venir les jours du Seigneur pour recevoir sa parole, en se portant volontaire pour faire des heures supplémentaires de travail, par exemple, afin de recevoir un peu plus d'argent. On a écouté ça même dans les peuples chrétiens. Très triste, mes frères. Deuxièmement, la parole de Dieu est la plus grande source de plaisir dans la vie, versets 11 ou 10. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des royaumes. Le Saint-Esprit donne à ceux qui les cherchent sincèrement un sang spirituel, qui lui permet de goûter la bonté de Dieu dans sa parole et donc de l'aimer davantage. Et un vrai croyant préfère la lire qu'autre chose. Et si nous négligeons la parole de Dieu pendant quelques jours, alors sachons que l'ennemi des âmes fera d'autres choses, fera que d'autres choses vous intéresseront davantage. Cependant, si vous vivez à travers la parole, c'est la plus grande source de bénédiction pour vous. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Encore une fois, le prophète Jérémie dit: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Sa valeur dépasse les pierres précieuses. L'or n'est que pour le corps et les préoccupations temporaires. Mais la grâce est pour l'âme et concerne pour l'éternité aussi. La parole de Dieu reçue par la foi est plus précieuse que l'or et plus douce que le miel. Les plaisirs sensuels s'épuisent bientôt, mais ils ne satisfont jamais. Mais ceux de la parole de Dieu sont substantiels et satisfaisants. Il n'y a aucun danger d'excès. Troisième, la parole de Dieu est la plus grande source de protection spirituelle. Verset 11. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Les mots ton serviteur aussi en reçoit instruction, les mots instruction en hébreu vient du mot briller, recevoir la lumière, être éclairé. Cela signifie, mes frères, qu'en lisant la parole du Seigneur, vous obtiendrez la compréhension des problèmes et le discernement nécessaire pour agir selon la volonté du Christ, de Christ. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, lumière. Les Écritures protègent les croyants de la tentation, du péché et de l'ignorance. Quatrièmement, la parole de Dieu est la source de notre plus grand bénéfice, car en gardant ces vérités, David nous dit, par le Saint-Esprit, qu'il y a une grande récompense. Grande récompense, non seulement dans le futur, mais maintenant, mes frères. David, ici, enseigne-t-il le salut par les œuvres? Non, pas du tout, comme vous pouvez le voir dans les versets suivants. C'est un homme qui croit à la grâce et au salut qui ne vient que par la grâce gratuite et le pardon gratuit de Dieu. Et quand il dit une grande récompense en les gardant, bien sûr que c'est comme ça, parce que si vous obéissez à Dieu comme un homme ou une femme pardonnée, et vous essayez par-dessus tout de lui obéir et de vous tenir à ses principes, alors il vous utilise et vous bénit, et il y a une grande récompense. Nous ne méritons pas vraiment aucune récompense, mais le Christ nous les assure par sa grâce, et pourtant c'est par grâce qu'il y a une grande récompense. Cinquièmement, les Écritures sont également précieuses parce qu'elles fournissent la plus grande purification. Verset 12 ou 13, qui connaît ces égarements, pardonnez-moi ceux qui l'ignorent. Les Écritures sont également précieuses parce qu'elles fournissent la plus grande purification. Qui peut comprendre vos péchés, vos égarements, dit David. Nous sommes tellement déchus qu'il y a des péchés que nous ne reconnaissons pas et des péchés que nous ne voulons pas reconnaître également. Et notre dette envers Dieu est infiniment plus grande que nous ne pouvons le voir. Les erreurs qui les comprendront, David dit. David dit, délivre-moi purifie-moi, absous-moi même des choses cachées, des attitudes insensées que je pourrais avoir, que je n'ai pas réalisées. Il veut être conscient de cela et il dit, David souhaitait sincèrement que de tels péchés ne le domine pas afin qu'il puisse être entier et pur de la grande rébellion. Verset 14, préserve aussi ton serviteur des os orgueilleux qui ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent des grands péchés. David faisait appel à Dieu pour que son cœur soit pur afin qu'il ne puisse jamais tomber. Il s'est donc rendu compte que la parole de Dieu était la seule et suffisante garantie contre un désastre spirituel. Le verset suivant. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qui ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent des grands péchés. Pour ce verset, mes frères, cette semaine, quand j'étais en train de préparer le message, m'a choqué un peu parce que les versets dans la version que j'ai, c'est différent à la version en espagnol. Le sens est donc que j'ai dû le chercher dans la version en anglais pour savoir c'est quoi la. Pour ce verset, permettez-moi d'utiliser la traduction de la Bible du Semeur. Ce qui me semble dans le sens le plus précis au texte original et qui est en accord avec la version King James en anglais et les meilleures versions en espagnol aussi. Gardez aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise, alors je serai intègre, innocent des grandes fautes. Le mot garder ou conserver a ici l'idée d'arrêter, de retenir un cheval, d'arrêter un animal qui veut avancer. Arrête également ton serviteur de tomber dans l'arrogance, dans les péchés de l'arrogance. Quels sont ces péchés d'orgueil? C'est un mot difficile dans l'original, vraiment. Et ici, l'orgueil ou les attitudes présomptueuses sont de bonnes traductions. Mais ces péchés ici, dans le psaume 19, sont des péchés dont nous ne nous soucions pas et que nous commettons avec arrogance. Ce sont des choses que vous savez que vous seriez à résoudre et dont vous seriez à vous repentir et vous devriez y résister, mais vous le faites quand même. Et vous savez que dans notre vie chrétienne, il y a souvent des choses que nous mettons volontairement de côté dans le processus de sanctification. Il y a des tendances que nous avons, des tendances dans notre caractère, des paroles que nous disons, des choses que nous faisons, dont nous savons qu'elles sont fausses, et nous ne voulons pas les amener dans la sphère de l'amélioration ou de la correction, et nous les faisons volontairement. Nous ne nous occupons pas de ces choses. C'est un péché présomptueux. C'est ce qui est mentionné ici. Et David dit, sauve-moi, arrête-moi, retiens les cordes comme un cheval. Ce qu'il veut évidemment dire, c'est aide-moi à prendre conscience de ce que je vais faire, aide-moi à me faire affliger par ma conscience, même en ce qui concerne ces choses que j'ai arrêté de faire depuis si longtemps, peut-être des mois ou des années, et que je n'ai pas médité, que je n'ai pas résolu, et que maintenant c'est quelque chose de commun et que je ne considère plus, que c'est quelque chose de grave et je pèse simplement avec ces choses, petites et grandes, et je n'ai aucune considération et cela nous prive de progrès et de la bénédiction et de l'aide de Dieu. Alors il prie, Arrête ton serviteur lui-même de tels péchés, des péchés volontaires, des choses orgueilleuses qui ne dominent pas sur moi. Et voici un avertissement, car ils peuvent nous dominer, mes frères. Alors vous soyez aussi fidèles, aussi consciencieux que David l'est dans ses psaumes, et faites un effort pour regarder, pour comprendre les péchés présomptueux. Ces choses que vous mettez de côté et ne confessez pas à Dieu, c'est la voie de la bénédiction, car alors vous êtes ferme avec le Seigneur et vous serez récompensé, béni avec certitude et joie en lui. C'est tout ça que fait la parole de Dieu en nous. Et enfin, David termine par ces mots, verset 14 ou 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Des merveilleux mots, les mots de ma bouche, dit David, les pensées de mon cœur, que cela soit acceptable. Ce que nous pensons pendant la journée, est-ce que tout cela est pur? C'est véritable? C'est d'accord à la parole du Seigneur? Ô Seigneur, dit David, ma force, mon rocher, celui sûr qui je dépends, non seulement pour toutes les bénédictions, mais aussi la certitude, la sécurité aussi. Mon Rédempteur. Une belle prière pour terminer. Il parle de l'engagement envers la parole de Dieu. Que dit David? Seigneur, que tout ce que je dis, que tout ce que je pense, tout ce que je fais soit selon ta parole. Et tout ça, mes frères, c'est la suffisance de la parole de Dieu pour toutes choses. Ainsi, frères, amis, nos enfants, l'appel pour vous et pour nous est de tourner notre regard vers la parole du Seigneur, de tourner notre cœur vers la parole du Seigneur, de tourner nos énergies et notre temps vers la parole du Seigneur. Lisons-la chaque jour avec un esprit de prière, méditons-la avec dévotion, croyons-la avec foi et vivons-la avec dévouement, en dépendance du Seigneur. Cherchez personnellement le Seigneur chaque jour. Ayez le culte avec votre famille où la parole du Seigneur est exaltée. Vous, parents, dirigez vos familles dans la voie du Seigneur. Faites voir à vos enfants votre amour et votre attachement à la parole de Dieu. Et vous, les enfants, recevez l'instruction de vos parents, ne la méprisez pas. Jonathan Edwards a déclaré, ce livre, la Bible, vous gardera loin du péché, ou le péché vous éloignera de ce livre. Que le Seigneur veuille que la première affirmation soit vraie en nous. Amen.